saluer de la part aussi de notre communauté à Marseille-Sud. J'ai même ressenti un petit peu de jalousie de la part de ma femme que j'avais l'occasion de venir voir ses nouveaux-nés dans la famille Saran. Donc, elle était contente aussi d'envoyer quelques paroles d'encouragement à Suzanne et à Alex et à vous tous. Donc, Alex me demandait de me présenter un petit peu davantage. Donc, je suis pasteur associé dans l'UNIPREF, le même union d'église que vous dépendez. Donc, j'ai travaillé plus de 20 ans à Marseille sur la création d'un poste d'une église à Marseille-Sud. Si vous imaginez Marseille qui commence dans les quartiers nord, et si vous allez jusqu'à collines qui sont à l'extrémité du sud, c'est là où le Seigneur a permis qu'une petite communauté naisse, et maintenant c'est dirigé par un pasteur français qui s'appelle Timothée Calvo, et maintenant l'église est dotée d'un ancien et des diacres qui aident à veiller sur le troupeau. Donc nous sommes reconnaissants, et ça me libère aussi d'aller à Toulouse, Dieu voulant. Cet été, nous allons déménager pour aider une église existante sur les quartiers est de Toulouse, et nous aimerions démarrer une église à l'opposé, donc de la même union, mais à l'autre bout de Toulouse, à Toulouse-Ouest. Si Dieu le permet, c'est notre prière. Et vous pouvez prier avec nous aussi dans ce sens. Ce matin, nous allons tourner dans nos Bibles, dans l'Évangile selon Luc. Donc le dernier chapitre, c'est le chapitre 24. Ce temps entre la résurrection du Christ, le jour de Pâques, où nous célébrons le Christ ressuscité, et la prochaine grande fête de l'Église chrétienne, la Pentecôte, je trouve que c'est un bon moment de prendre le temps. Je vous encourage de lire tous les passages où Jésus se révèle, où il apparaît aux disciples. Et donc ce matin, nous allons lire un passage qui raconte comment Jésus s'est révélé à deux des disciples. En quittant Marseille ce matin, c'était l'après-midi déjà, j'ai vu la ruée de gens qui allaient vers le stade. Et maintenant, arrivé à Lyon, j'ai vu la même chose, beaucoup de gens qui se rassemblent pour aller fêter le foot, et à Marseille, c'était le rugby. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand je pense à l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier, du lever du soleil, on sait que l'Église se rassemble. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Donc, écoutons la parole de Dieu. Donc, Luc chapitre 24, versets 13 et suivants. Je vais le lire dans la Bible que peut-être vous avez pris à l'entrée. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qu'il est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs de prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ils ont dit des prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance, en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te reconnaître ce matin. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons même faire du chemin avec toi et apprendre qui tu es et apprendre comment annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. C'est notre prière. Que ton Esprit Saint vienne à notre aide. Amen. Donc cet après-midi, nous allons réfléchir un petit peu sur la doctrine de la résurrection. Ce n'est pas une croyance qui est affirmée automatiquement, ni dans notre société et ni dans les évangiles tout de suite. Pour certaines personnes, cet événement est très mystérieux et même entouré de doutes. Pourtant, cet événement, la résurrection, devrait être une source d'immense joie et d'espérance pour tous les chrétiens. Donc, nous allons prendre le temps de regarder ce texte biblique au fur et à mesure. Et donc, Luc chapitre 24, verset 13, où deux des disciples quitte Jérusalem à pied pour aller vers Emmaüs, situé environ 12 kilomètres, selon un certain nombre de stades qui se traduit en kilomètres, à peu près une dizaine de kilomètres. Ce n'est pas une petite marche. Ils ont quand même marché quelque temps. Et l'un des disciples était identifié d'un prénom Cléopas et l'autre est inconnu. On pourrait tout à fait imaginer que l'autre disciple et était soit l'apôtre Pierre, parce que quand il arrive à Jérusalem, ils disent qu'il est apparu à Simon-Pierre. Ou ça peut être l'évangéliste Luc lui-même, parce qu'il raconte l'histoire comme il était présent. Ensuite, Jésus-Christ s'approche de ces deux disciples tout en écoutant leur conversation. Et même, il fait du chemin avec eux, il fait un bout de chemin. Et au verset 15, Luc précise que ses disciples étaient empêchés de le reconnaître. Puis Jésus les interroge, « De quoi parlez-vous en marchant ?» Les deux disciples s'arrêtent afin de s'expliquer davantage. Les disciples sont évidemment attristés et confus par les événements des derniers jours. L'entrée triomphale de Jésus, les acclamations de la foule et toutes les paroles et les actes de Jésus dans ses derniers jours à Jérusalem, son arrestation et son procès, suivi de sa mort, et puis enfin la disparition de son corps 3 jours après. Les disciples sont sous le coup d'une grande déception. puisque leur maître, leur ami Jésus, était un prophète puissant en actes et en paroles. Tous les habitants de Jérusalem ont été touchés par ces événements. Et c'est pour cette raison que les disciples étaient vraiment étonnés que ce nouveau compagnon qui marche avec eux, c'est comme, est-ce que tu as dormi quelques jours? Tu étais quelque part, tu n'as pas compris qu'il y avait des événements à Jérusalem ces derniers jours, où étais-tu? Es-tu le seul de Jérusalem qui ne soit pas au courant de tout cela? Et la confusion, la tristesse et la déception des disciples, on peut bien les comprendre, car ils attendaient un Messie géopolitique qui aurait dû délivrer tout Israël de l'oppression de Rome. Donc selon eux, ils attendaient un Messie qui vient avec éclat sur un étalon, qui va renverser tout. Mais leur espérance a été brisée en mille morceaux dans le jardin de Gethsemane, quand Judas a livré le maître par le moyen d'un baiser. Tous les disciples l'ont alors abandonné. Le jour de son exécution, certains disciples ont quand même regardé la fin de sa vie sur la croix, mais de loin. Quelle ne fut donc pas leur surprise quand les femmes, quelques jours après, les femmes Marie, de Marie et Jeanne, leur ont annoncé que le tombeau était vide et que les anges leur étaient apparus. Qu'est-ce que tout cela pouvait donc signifier? Est-ce que ces femmes sont folles? Est-ce que ces femmes ont raison? C'est alors que Jésus, toujours caché aux yeux de ses deux disciples qui marchaient à Emmaüs, Jésus commence à expliquer. Il commence par une reproche quand même. Il dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire » et tout ce que ont dit les prophètes. Donc, en quelque sorte, il dit « Vous ne connaissez pas les écrits. Il faut voir les écrits réalisés dans la vie de cet homme. » Et donc, il leur montre, il donne une explication détaillée à l'aide de toutes les preuves prophétiques de l'Ancien Testament, où il était question du Messie. Il démontre systématiquement le lien qui existe entre la personne de Jésus-Christ et les écrits prophétiques, en commençant par Moïse. On peut bien imaginer que Jésus a donné des arguments très convaincants. Par exemple, bon, je donnerai quelques exemples, on peut passer toute la soirée en regardant les textes prophétiques, mais je prends quelques-uns. Et vous pouvez aussi, dans vos Bibles, marquer, peut-être avec un feutre en couleur ou avec un crayon qui est de couleur, ceux qui sont les textes messianiques. Et même ce soir, je vous encourage de les relire. Ésaïe chapitre 53, les versets 3 à 5, nous lisons qu'il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous l'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés, dit le prophète Ésaïe, qu'il a été percé, et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et au verset 9 de ce même chapitre, on a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra des longs jours et accomplira avec succès ce qu'il désire l'Éternel. En lisant cette prophétie, comment on ne peut pas penser au Christ qui était frappé, qui était maltraité et méprisé et qui est mort et enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, cet homme riche. Et c'est clair par ce passage et bien d'autres que le serviteur de l'Éternel devrait souffrir et porter les péchés du monde afin d'être reconnu comme Messie victorieux sur la mort et le péché. Il y a bien d'autres psaumes messianiques, vous pouvez peut-être les citer si je vous posais la question. Le psaume 22 qui commence avec cette parole qui est même dans la bouche de Jésus. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur la croix, il sentait cette rupture avec son Père. Mais plus tard, nous avons cette affirmation dans le psaume 18. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse et mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur le Tout-Puissant, mon rempart et mon bouclier. » En fait, Jésus est mort sur la croix et nous le confessons souvent, il est descendu même aux enfers. Et dans ce même psaume 18, nous lisons « Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'appelais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. » Donc, le Christ, on peut l'entendre, même expliquer avec insistance à ses deux disciples tous ces écrits de la loi dans les prophètes, dans les livres historiques, dans les livres de sagesse, tout ce qui le concernait, pour expliquer qu'il était bien celui qui est attendu, et c'est bien celui qui était envoyé par Dieu. Et toutes ces prophéties ont été accomplies par les événements de la Semaine Sainte. Les mains clouées, les os qui sont disloqués, le côté percé, le tirage au sort de sa tunique, et même sa descente au séjour des morts, et sa résurrection sont annoncées par le psalmiste. Gloire à Dieu. Donc, je vous encourage de retourner maintenant à notre texte principal, Luc 24, verset 29, et nous pouvons voir ces deux disciples insister pour que leur nouveau compagnon reste avec eux, parce qu'ils étaient touchés par ces paroles. Ils étaient convaincus et ils voulaient entendre davantage. Et la nuit tombant, Jésus a cédé à insistance de rester dans... Et donc, ils sont rentrés dans cette maison ou bien une auberge où ils partageaient un repas très simple. Puis Jésus, quand il a pris le pain, il a prononcé la bénédiction. Il a prié comme nous le faisons souvent avant de manger. Et quand il a donné le pain à ses disciples, c'est lors à la fraction du pain qu'ils le reconnaissent comme étant bien Jésus. Et à l'instant même, sous leurs yeux, Jésus disparaît. C'est sans aucune hésitation que les disciples quittent le lieu où ils sont pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples de Jérusalem, celle que Jésus est réellement ressuscité. Imaginons si vous faites 11 kilomètres ou 12 kilomètres jusqu'à un lieu et c'est la nuit. Est-ce que c'est facile de reprendre la route sans lampe de poche, sans ce qui est plus facile à notre jour? Mais ces disciples étaient tellement motivés qu'ils ont repris chemin pour annoncer avec joie et que Jésus est réellement ressuscité. Maintenant, j'aimerais vous suggérer, si vous voulez bien, quelques pistes de réflexion sur la signification de ce passage. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos vies? Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nos vies? D'abord, on peut se poser la question, croyez-vous vraiment que Jésus est réellement ressuscité comme décrit dans le Nouveau Testament? Comment pouvons-nous reconnaître le Christ ressuscité? Le jour de sa résurrection, la plupart des disciples n'avaient pas la foi et leurs yeux n'étaient pas prêts à voir le Christ. En fait, tout au long de leur chemin vers Emmaüs, ces deux disciples avaient les yeux fermés. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Et je crois que la clé de cet aveuglement, c'est la révélation divine. Et en effet, Dieu peut nous montrer notre incrédulité, notre manque de compréhension, pour ensuite nous révéler son Fils ressuscité. Même si vous prenez d'autres textes du Nouveau Testament, où les disciples sont allés voir ou sont allés confirmer, ce n'était pas tout de suite qu'ils ont cru ou qu'ils ont adhéré à cette résurrection. C'est la révélation de Dieu. Donc le fait de croire à la résurrection de Jésus-Christ demande la foi, ainsi qu'une révélation divine. Jean chapitre 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est de nous révéler que le Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité. Mais la résurrection de Jésus-Christ est non seulement une révélation divine, elle est aussi tout à fait raisonnable. Dieu peut aussi agir au niveau de notre intelligence, par le biais de nos recherches. Jésus a pris le temps de montrer la logique du déroulement des événements qui ont eu lieu avant et après sa mort. Nous pouvons, nous aussi, voir que la résurrection est raisonnable, étant donné le fait qu'elle est l'accomplissement de toutes les prophéties messianiques. Donc, nous voyons aussi les témoins oculaires, ceux qui étaient là présents lorsque Jésus est mort, mais vraiment mort, pas seulement, il n'était pas seulement blessé, il était vraiment mort. Ils n'ont pas brisé les jambes parce que les soldats ont constaté qu'il était mort. Ils ont percé son côté pour vérifier. Et donc nous savons que le Christ est mort et par le témoignage de ces femmes et aussi Jean et Pierre qui sont allés vérifier dans le tombeau vide, nous avons le constat des témoins oculaires. Notre récit montre enfin que Jésus a pris le temps de marcher avec ses frères ainsi que de les écouter. Donc, d'abord, nous avons constaté que le fait de croire à la résurrection demande la foi et aussi l'action de Dieu dans nos cœurs qui nous donne la foi, qui nous donne cette transformation de cœur. Nous avons aussi constaté que cet événement peut être constaté par une certaine recherche intellectuelle et constat des textes bibliques. Et enfin, nous pouvons apprendre de la manière de Jésus, de son comportement, de son écoute de ses amis. Nous lisons que Jésus s'est approché de ses deux disciples et qu'il a même fait route avec eux. Il a marché longtemps avec ses deux disciples. Jésus aurait pu se révéler immédiatement d'un éclat. Cependant, il a choisi de prendre le temps. Nous aussi, nous sommes dans la possibilité. Nous avons des amis, des proches, des membres de nos familles avec qui nous pouvons faire la route, même écouter attentivement. écouter leur peine et leur joie, et même écouter leur histoire. Ça prend du temps et ça en vaut la peine. Si nous souhaitons qu'un jour qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous faut réaliser que cela nous coûtera du temps et de la patience, parce que parfois les histoires se répètent. Parfois les gens veulent raconter leurs peines et leurs difficultés, et ça prend du temps à leur écouter. Ça nous coûtera. D'ailleurs, l'un des premiers pas dans l'évangélisation s'effectue en ayant une bonne écoute. Notre écoute doit être authentique. C'est pas une écoute comme une sorte de demi-écoute ou une écoute, une feinte. Non, c'est réel. Je pense à un frère dans notre communauté à Marseille Sud avec qui nous avons fait du chemin plusieurs années. Et nous avons expliqué, il a posé des questions, on a répondu. Il a même joué le piano pendant nos cultes, et nous avons fait des retraites ensemble. Et après quelques années, il a surmonté ses doutes, il a surmonté ses craintes, et même sa fierté pour proclamer qu'il était vraiment disciple de Jésus. Ça a pris du temps et c'était un plaisir même de faire du chemin avec ce frère. Et encore plus maintenant de voir par le témoignage de plusieurs personnes qu'il s'est converti. Donc l'écoute de ceux qui sont chers à nous, c'est un moyen de montrer l'amour du Christ. Ayant bien écouté ton ami, ton collègue de travail ou ton voisin ou voisine, nous sommes appelés à parler. Ce n'est pas une écoute comme si vous jouez au ping-pong contre un mur, que ça revient tout le temps. De même, quelqu'un dit quelque chose, tu le renvoies. C'est une écoute un peu sans réflexion. Non, non, ce n'est pas une écoute comme ça. Nous sommes appelés à engager dans la conversation et à répondre à leurs questions, et même à donner une réponse ayant la foi, ayant cette espérance dans nos cœurs. Donc, notre écoute n'est pas muette, notre écoute doit aussi parler de Jésus-Christ et notre amour pour lui. C'est ainsi que nous honorons Jésus-Christ. Notre écoute est active et cette écoute se traduit par aussi des paroles. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 16, nous sommes exhortés, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Donc, nous sommes exhortés par Pierre d'être toujours prêts, comme des scouts, toujours prêts à répondre, à donner une réponse pleine d'espérance, parce que le Christ vit dans nos cœurs. On peut dire en conclusion que des voyageurs de Jérusalem à Emmaüs nous ont édifiés, nous ont instruits sur plusieurs points. D'abord, c'est Christ, c'est Dieu qui nous ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et croire à la résurrection. Donc c'est Dieu qui agit dans nos cœurs. Et deuxièmement, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont raisonnables du fait qu'elles sont l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et le témoignage des personnes qui étaient réellement là, présentes, les témoins oculaires. Et troisièmement, si nous voulons aider nos frères et sœurs à croire, nos amis, ceux qui font partie de notre famille qui n'ont pas encore la foi, il nous faut prendre le temps de les écouter. Et quatrièmement, notre écoute n'est pas dans le vide. Nous avons une espérance solide et vivante dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous prions et cherchons des occasions à partager comment et pourquoi nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Peut-être, dernier mot, il y a parmi nous certains qui gardent toujours des doutes sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Sachez que beaucoup de personnes sont passées par le doute avant de trouver la foi. Et je vous encourage de ne pas quitter ces lieux et n'ayant pas parlé à quelqu'un, à votre pasteur ou à moi-même ou à quelqu'un d'autre qui pourrait vous encourager, vous aider à réfléchir sur ces doutes et à avoir l'espérance des chrétiens. Voilà. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole qui est limpide, ce récit qui est très instructif. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes maintenant dans notre recherche et notre chemin avec toi. Nous voulons, Seigneur, te connaître mieux et te faire connaître autour de nous. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'on va chanter. C'est le chant 177, « Toi qui disposes ».